chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle heure de Route des Hommes que nous sommes heureux de partager en votre compagnie. Nous sommes le 1er mai 2010 et il est 11h.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Jérôme, comment vas-tu?
Bien, bien ce matin, merci.
Aujourd'hui, nous allons parler de la fibromyalgie et nous accueillons Isabelle Lucheux et Gisèle Baron de l'association Fibromyalgie SOS. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Et Stéphanie Maury de l'association Fibromyalgie, Espoir et Avenir Île-de-France, dont je suis la présidente.
C'est moi-même. Bonjour évidemment. Stéphanie.
Bonjour. Bien évidemment, vous pouvez intervenir, poser vos questions ou réagir à tout moment en appelant le standard au 01 34 92 82 42. L'émission est en direct. Elle est diffusée simultanément sur notre site rvvs.fr. Et vous pourrez la retrouver sur l'antenne 96.2 dès lundi, puis en téléchargement légal et gratuit. Connue autrefois sous les noms de fibrosite, de syndrome polyalgique idiopathie diffus, SPID, ou de lymphadénite, c'est pas facile à prononcer.
Oui, c'est clair.
La maladie est communément appelée fibromyalgie actuellement et provient des termes fibro pour les tendons et les ligaments, myo pour les muscles et algie pour la douleur. La fibromyalgie est une affection douloureuse musculosquelettique caractérisée par une sensation de douleur générale, diffuse et un sentiment de fatigue profond. Il est nécessaire de savoir que les symptômes présentés par les patients sont aussi handicapants que ceux de la polyarthrite rhumatoïde et peuvent être invalidants. La maladie touche environ 14 millions de personnes en Europe et 2 à 3 millions en France. Cela représenterait 6 à 20% des consultations rhumatologiques, principalement les femmes 85%. Enfin, il existe des cas infantiles, des cas masculins. Tout laisse à penser que la prévalence chez l'homme est sous-estimée actuellement, si l'on admet dans nos cultures qu'il peut y avoir une connotation péjorative à ce qu'un homme soit défaillant sur le plan musculaire et sur sa tonicité. L'homme consulte indiscutablement moins et il y a des cas tardifs de seniors.
Très bien, donc je me retourne vers nos invités. Isabelle et Gisèle. Je vais y arriver, non mais c'est toujours comme ça le matin. De toute façon, j'ai pas pris mon café, donc c'est normal. Ouais, c'est normal. Donc vous faites partie de quelle association?
Alors, Gisèle et moi, on fait partie de l'association Fibromyalgie SOS.
Oui.
Gisèle est la vice-présidente, voilà. Et secrétaire.
Oui. D'accord.
Et
Isabelle est hôtesse téléphonique et modératrice de notre forum www.forum.fibromyalgie-sos.fr.
D'accord, donc c'est important de donner les coordonnées de votre association.
Oui, c'est une association nationale.
D'accord, et donc vous êtes localisée où?
Dans toute la France.
Dans toute la France, mais bon, vous avez une antenne dans les villes.
Le siège social est à Villeneuve-d'Ascq et nous commençons à créer des antennes locales.
D'accord.
Donc il y en a déjà 3 de créer dans le sud et moi-même en Ile-de-France, après l'été, je créerai dans le Val-d'Oise une antenne.
Une antenne. D'accord. Et à qui s'adresse donc cette association? Enfin, comment ça se passe concrètement?
Ça se passe, en fait, on a un numéro aussi, un 0800, je ne connais pas.
0820 220 200.
Voilà, où les personnes qui ne sont pas encore diagnostiquées, qui peuvent nous appeler pour avoir des conseils, pour qu'on les oriente sur un médecin qui peut les diagnostiquer. Il y a également des personnes en détresse qui nous appellent, qui sont un petit peu perdues parce que le diagnostic est difficile à avoir. Des personnes qui sont déjà diagnostiquées mais qui ont besoin d'avoir des conseils, et puis des personnes qui n'ont pas le moral, à qui on remonte le moral.
D'accord.
Alors il faut savoir que ce numéro de téléphone, c'est une permanence téléphonique qui se tient 7 jours sur 7, de 10h à 23h, et cette permanence elle est tenue uniquement par des malades bénévoles. D'où la compréhension des appelants, quoi, parce qu'elles ont traversé la même chose.
D'accord. Et justement, pour informer nos auditeurs, qu'est-ce que la fibromyalgie? Donc, il y a Stéphanie qui nous a fait
un résumé. Moi, quelques petites choses. Déjà, au niveau de la... Il y a une génétique. Hein. Ce n'est pas une maladie génétique, mais il y a une prédisposition génétique. On remarque des familles de fibromyalgie. Donc, ça, c'est la première piste. En hormonale, parce qu'on a quand même beaucoup de femmes par rapport aux hommes. Il faut dire aussi que la fibromyalgie, bon, ça s'appelle aussi la maladie du mal partout, tout le temps. La douleur et la fatigue, en fait, il y a 100 symptômes dans la maladie, donc comme par exemple la vessie et le côlon irritable, l'hypersensibilité à la lumière et au bruit, les troubles cognitifs, c'est-à-dire que nous oublions ce que nous disons, ce que nous faisons. Donc on n'a pas les 100 symptômes en même temps, heureusement, mais selon le stade de la maladie, nous en avons déjà beaucoup trop. Je parle de stade car on dit de la fibromyalgie qu'elle n'est pas évolutive et qu'il y a des périodes de rémission. Donc on parle de stade et pour la plupart d'entre nous, nous ne revenons pas au stade précédent. Donc je vais vous expliquer pour les stades qui peuvent aller jusqu'à l'handicap pour certains. Donc le stade 1 est constitué par des gènes de tout ordre, mais qui autorisent une vie sociale et professionnelle normale. Donc là, en fait, généralement, les gens ne sont pas encore diagnostiqués, ils commencent à avoir des problèmes, mais ils ne savent pas vraiment ce qui se passe. La maladie s'est bien installée de façon chronique. Les douleurs ressenties impérieuses et occupent la majeure partie de la vie, de jour comme de nuit, rendant les relations sociales, travail, famille très fortement perturbées, voire impossibles. Donc là, la plupart du temps, on est diagnostiqué, mais malheureusement, il y en a certains encore qui ne sont pas, parce que c'est très dur, le parcours du combattant pour cette maladie-là, on va en reparler dans l'émission. Et le stade 3, le malade peut devenir invalide. Voilà.
D'accord. Et donc, justement, comment ça se passe, ce diagnostic? Enfin, on va chez le médecin, parce que, par exemple, pour le stade 1, gène de tout ordre.
Enfin, bah, en fait, je crois que Stéphanie va intervenir.
En fait, on va chez un rhumatologue.
Directement, enfin, ça s'est passé comment pour toi?
Bah pour moi, c'est mon frère qui, en ayant marre de me voir souffrir, m'a envoyé chez son rhumatologue qui m'a tout de suite diagnostiqué la fibromyalgie parce que j'avais les 18 points, on appelle ça les... Il faut avoir au moins 11 points de Yunus. C'est les points de Yunus. C'est 11 points dans le corps,
oui.
Minimum, qui font que ça la fibromyalgie ou pas.
Donc ça se manifeste comment, concrètement?
Une fatigue musculaire. Une fatigue générale aussi, un sommeil non réparateur, des pertes de mémoire.
Et un petit peu de tout.
Oui, un petit peu.
En fait, on passe d'une chose à l'autre, c'est-à-dire il y a 100 symptômes. Mm-hmm. Et donc, il y a des périodes où on va avoir des problèmes de côlon irritable, d'autres périodes où ça va être la lumière et le bruit. Des fois, on a tout en même temps, mais bon, on n'a pas les 100 symptômes en même temps, mais on peut en avoir 40, 50 symptômes. Oui. C'est des sensations de brûlure sur la peau, c'est des petites décharges électriques, voilà, c'est plein de choses comme ça.
Mais par exemple, dans une heure de temps de la journée, ça peut se déplacer de la tête aux pieds, c'est complètement mobile. Hein. Donc c'est ça qui est très difficile à vivre.
Oui, et pour ça, il y a le livre d'Albert Mergui qui explique très bien ce qu'est la fibromyalgie.
D'accord.
Je ne me rappelle plus le titre, mais...
Je vous conseille d'aller voir sur Google à nos auditeurs,
oui,
Albert.
Oui.
Et donc, c'est quelqu'un qui a vécu aussi cette maladie.
C'est un médecin.
C'est un médecin, d'accord.
Donc, qui explique très bien ce qu'est la maladie, les 100 symptômes. Et lui, il évoque plutôt la piste dentaire.
La piste dentaire. Alors, on a parlé de piste génétique, piste hormonale. Enfin, est-ce qu'on sait concrètement d'où elle vient, cette maladie?
Non.
Il y a des recherches de fait sur le sujet.
Oui, il y a des recherches encore. Il y a un organisme sur Paris qui fait des recherches sur l'hypersensibilité aux ondes magnétiques. Et là aussi, on parle des amalgames dentaires. Ça fait partie de l'hypersensibilité des fibromyalgiques.
D'accord.
Donc le problème dentaire, il y est peut-être pour quelque chose.
D'accord. Et est-ce qu'on sait pourquoi, par exemple, il y a plus de femmes que d'hommes qui sont touchés ou,
C'est hormonal, d'après ce qu'on nous dit.
Oui.
On ne sait pas pour l'instant. En fait, on vient d'aller dans un congrès à Dax, et il y a une personne qui a dit, un des médecins qui était là, qui a dit la piste hormonale, mais lui, il dit... Il part dans ses recherches vis-à-vis du fait que les femmes, en fait, peuvent avoir des enfants et pas les hommes. Et pour lui, ça viendrait plutôt de ça. Donc, voilà. Mais c'est un avis comme un autre, hein, parce que pour l'instant, rien n'est défini. Hein.
D'accord. Et donc, on a vu hein, 6 à 20% des consultations en rhumatologie. Donc, c'est quand même un chiffre assez important.
Sans compter tous ceux qui ne sont pas diagnostiqués. Okay.
Ouais. Et est-ce qu'on parle encore de maladies rares, alors, à ce moment-là?
Non, maladie orpheline, oui, parce qu'il n'y a pas de traitement. Mais maladie rare, maintenant, non, c'est passé à des chiffres quand même qui sont assez importants, donc c'est plus vraiment maladie rare.
Ben, elle est orpheline par extension, puisqu'il n'y a pas de traitement véritablement proposé, parce qu'à ce jour, on essaye des médicaments, mais on va en reparler.
Oui, on va parler des traitements.
Je crois qu'il y a aussi une question d'urbanisation, tu voulais nous en parler, justement.
Oui, oui, parce que on dit souvent que c'est le mode de vie que nous avons. Or, on ne peut pas dire que ce soit lié à l'urbanisation. Le professeur Blottmann du CHU de Montpellier, éminent spécialiste de la fibromyalgie, précise à ce titre que dans certains pays, il y a beaucoup de cas. Par exemple, chez les Amish, qui sont loin de vivre dans une urbanisation importante, comme nous, Français ou Européens. Donc, et le professeur Blottmann, c'est vraiment un top au niveau de la fibromyalgie. Et tous les ans, nous faisons le salon, le congrès de la Société française de rhumatologie. Et il fait tous les ans des conférences là-dessus. Et c'est vrai que là, son langage, son message commence à changer vis-à-vis de l'évolution et du diagnostic de la maladie.
D'ailleurs, c'est même lui qui a commencé à parler de fibromyalgie primaire et secondaire.
D'accord.
C'est-à-dire, faut expliquer ce que c'est.
Oui.
Primaire, c'est-à-dire qu'on a la fibromyalgie seule, et secondaire, c'est quand il y a une autre pathologie associée.
Avec. Parce qu'il faut savoir que dans la fibromyalgie, on a quand même énormément de personnes qui ont une autre pathologie. Donc, soit au niveau rhumatismal, il y a plein. Il faudrait que les personnes aillent se renseigner ou nous appellent pour une chose précise, parce qu'il y a beaucoup de pathologies associées à cette maladie. Donc, dans ces cas-là, c'est fibromyalgie secondaire.
D'accord.
Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai le gouvreau œstrogène, donc ouais. Les yeux sèches, le tube digestif, les articulations.
C'est une maladie
auto-immune qui s'associe à la fibromyalgie, comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondyarthrite, beaucoup de pathologies de ce genre.
Bah, on reviendra sur tout ça dans une seconde partie d'émission. Là, on va passer à une pause musicale. Donc, le premier titre, c'est Gérald de Palmas. Alors, je sais pas.
Je n'ai qu'une seule vie.
Donc, pourquoi avoir choisi ce titre?
Ah, bah, faut écouter les paroles.
D'accord. Donc, on va écouter Gérald de Palmas. Merci.
RVVS. Toute la journée. Toute la musique. RVVS.
I want
RVVS 96.2 FM, vous écoutez Route des Hommes. Oula, j'ai eu un problème dans mes oreilles. Donc vous écoutez Route des Hommes. Et aujourd'hui, nous parlons de la fibromyalgie en compagnie de l'association donc SOS Fibromyalgie, je me trompe pas.
Fibromyalgie SOS.
Fibromyalgie SOS, donc que vous pouvez retrouver sur leur site internet www.fibromyalgiesos.fr ou sur une permanence téléphonique au 0820 220 200.
Il ne faut pas oublier aussi l'association AFEA.
Oui.
Au 01 30 98 45 57. Et le site internet, c'est http://afea.idf.free.fr.
Merci beaucoup pour cette précision. Donc, on accueille aujourd'hui donc Isabelle et Ghislaine de l'association Fibromyalgie SOS. Mmh. C'est compliqué à dire pour moi. Merci.
Et donc, on ne trouvera pas des noms plus compliqués.
Merci.
Souvent, les gens disent SOS Fibromyalgie, donc nous avons l'habitude.
D'accord, ok. Donc justement, on parlait de cette maladie hein, qui est comparée à une maladie dont on dit la maladie du mal partout, comme vous l'aviez expliqué, oui, ou tout le temps aussi, donc sans symptômes. Et on revenait à cette notion de stade. Donc, vous nous parliez dans une première partie qu'il y avait trois stades de la maladie, évolutif.
Alors nous, on parle de trois
ou
stades.
Ou non évolutif.
Voilà, on parle de trois stades parce qu'en fait, les médecins disent que la fibromyalgie n'est pas évolutive, comme par exemple la sclérose en plaques ou d'autres maladies. Donc nous, on essaye de parler de stades parce qu'on a remarqué quand même qu'il y avait ces trois stades bien distincts, c'est-à-dire le premier stade où les gens continuent à vivre presque normalement, avoir une vie sociale, etc., qui commencent juste à avoir des gènes dans leur vie, qui ne savent pas encore que c'est la fibromyalgie, mais qui commencent vraiment à avoir des problèmes de santé. Le stade 2, où vraiment là, il n'y a plus, quasiment plus possibilité de travailler, ou alors vraiment à mi-temps thérapeutique, ou comment on appelle ça ? Ah, ça y est, voilà, les mots qui partent. Bon, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Et le troisième stade d'invalidité, bon, entre le stade 2 et 3, il peut y avoir, moi, par exemple, personnellement, j'ai eu une période d'un an où je ne tenais pas du tout debout. À l'époque, je ne savais pas que c'était la fibromyalgie. J'aurais eu besoin d'avoir un fauteuil, en fait, pour pouvoir vivre normalement. Parce que là, en fait, c'est mon mari qui me portait. C'était pas très pratique. Voilà. Ça a duré un an. Alors qu'après, j'ai réussi à remarcher et à retenir. Bon, on tient jamais beaucoup debout. On peut pas, par exemple, rester dans une file d'attente. Ça, c'est pas possible pour tout fibromyalgie de toute façon. Hein. Donc, par contre, après, je suis revenue, on va dire, au stade 2, puisque en fait, j'ai pu remarcher, ressortir, etc. Mais j'étais au stade 3 du fait que je pouvais plus me lever. Enfin, j'avais beaucoup de mal à me lever, beaucoup de mal à marcher, beaucoup de mal à tenir debout. Je pouvais plus rien faire.
En suivant votre schéma, on peut passer par des phases évolutives de la
entre
maladie.
Entre la 2 et la 3, oui. Maintenant, d'accord. Une fois que vous êtes passé dans la 2, vous ne revenez jamais à la phase 1. Hein. Vous ne pouvez jamais reprendre une vie normale une fois que vous avez atteint le stade 2. Mais entre le stade 2 et 3, il y a des périodes de rémission. C'est-à-dire en stade 3, qu'on appelle période de rémission, on passe en stade 2 parce qu'il faut savoir que cette maladie ne nous quitte jamais. Même si on a des périodes, si par exemple après des cures, des choses comme ça, on a des périodes où on va mieux. On ne guérit pas, donc on a des petites périodes de rémission, mais je dirais que la période de rémission, c'est de passer du stade 3 au stade 2. Quoi.
Est-ce qu'il y a un âge moyen à partir duquel on constate qu'on a cette maladie
ou... Alors, il disait au départ que la maladie arrivait après 30 ans, mais on a pu constater que chez certains enfants, la maladie apparaissait. Donc il n'y a pas vraiment d'âge vers lequel la maladie apparaît. Et on nous dit aussi souvent qu'après 65 ans, la maladie disparaît. Et ça, c'est une erreur
ouais,
aussi.
En fait, il y a un professeur qui nous a expliqué que les douleurs ne disparaissaient pas, mais elles se mélangeaient aux douleurs de la vieillesse, entre guillemets.
L'arthrose.
Voilà.
Oui. Et ce qu'il y a, c'est que nous avons pu constater sur notre forum que nous avons de plus en plus d'hommes atteints et qui en parle, et aussi des hommes très très jeunes, hein, donc une vingtaine d'années, même des adolescents, alors qu'avant on parlait uniquement de la femme. Donc là aussi, ben, c'est peut-être aussi grâce aux recherches que ça évolue, et donc les forums de discussion, ça permet aux gens de se libérer aussi, c'est une thérapie comme une autre. Hein.
Oui, les groupes de parole aussi.
Donc un soutien moral aussi. Oui. Et est-ce qu'on s'habitue à la maladie donc,
On est forcé de s'habituer à la douleur, parce que sinon on ne pourrait pas vivre. Mais on ne s'habitue pas complètement à la dégénérescence, au fait de ne pouvoir plus faire complètement les choses. Ça, c'est très très dur à s'habituer.
Même psychologiquement.
Oui. Ouais.
En fait, si vous voulez, la fibromyalgie a été longtemps considérée, avant qu'on découvre que c'était les neurotransmetteurs de la douleur qui ne fonctionnaient pas, elle a été longtemps considérée comme une maladie psychologique. Et malheureusement, on rencontre encore...
Et psychiatrique.
Ouais, et psychiatrique. Il faut savoir qu'il y a 30% de personnes qui sont en dépression dans la fibromyalgie, mais parce qu'elles ne supportent plus ou les douleurs, ou parce qu'elles ont perdu leur conjoint parce qu'ils ne supportaient pas de voir la personne malade, ou elles ont perdu leur travail, etc. Donc c'est une conséquence en fait de la maladie, mais par contre on ne devient pas fibromyalgique parce qu'on a un problème psychologique, pas le contraire n'est pas valable.
D'accord. Et justement, vous nous parliez de, on en parlait pendant la pause, de pronostic vital.
Alors,
de la maladie.
En fait, il n'y a pas de pronostic vital, on n'en meurt pas, mais comme tout autre problème peut affecter l'être humain, nous avons des cas de suicide, malheureusement, qui sont dus soit par douleur trop forte, manque de compréhension du corps médical, perte du conjoint qui ne supporte pas, perte de l'emploi, et ils se retrouvent en situation de précarité. Je dirais aussi que le pronostic vital n'est pas engagé, mais qu'on nous dit que c'est pas une maladie grave parce que le pronostic vital n'est pas engagé, ça nous énerve beaucoup parce que c'est vrai que on n'en meurt pas, bon, sauf ceux qui le décident. Mais le problème, c'est est-ce que vous pensez vraiment qu'on a une vie agréable avec des douleurs et de la fatigue 24 heures sur 24 c'est une bagarre de tous les jours, un combat de tous les jours. Donc je pense que il y a le pronostic vital, bon, peut-être, mais moi je ne parle pas comme ça, mais j'ai déjà entendu parler des fibromyalgiques qui disaient je préfère avoir quelque chose et partir que de vivre ce que je
veux. Oui.
D'accord.
J'ai aussi entendu.
Ok. Donc je pense que là on va faire une deuxième pause musicale, il est 11h30. Mmh. Et tout de suite après on va peut-être parler du traitement, de la prise en charge des personnes fibromyalgiques.
Oui.
D'accord, ça vous va?
D'accord.
Et donc là, qui a choisi la musique?
C'est moi.
Isabelle, oui.
Je sais plus, je crois que
c'est Yannick Noah.
Oui, la vie donne, c'est pareil.
Il faut écouter les paroles.
Surtout le rôle.
Très bien. Et bien, on écoute les paroles.
RVVS. Toutes les musiques sont sur RVVS.
Plus que le frère à mes côtés. Celui que je m'étais imaginé, jusque la route sans rien espérer, c'est l'aventure qui nous a trouvés. De nuit trop blanche en aéroport, être ensemble notre trésor, sans douter jamais. Chaque heure comme le dernier instant. La vie nous donne, c'est presque rien. De l'air, de la force, du temps sans fin. Et puis tout ça nous manque, c'est là qu'on comprend. La vie donne, elle nous donne. sens sans fin. Et quand tout ça nous manque, bien sûr on comprend. On s'étonne, on frissonne et puis du vent. Allez dis-moi, dis-moi qu'on n'est pas mort. La vie donne, à nouveau elle nous attend. La vie donne, elle nous donne.
RVVS 96.2 FM, vous retrouvez la troisième partie de Route des Hommes en compagnie de Ghislaine et Isabelle qui font partie de l'association Fibromyalgie SOS et qui nous explique ce qu'est la fibromyalgie, et Stéphanie aussi qui est intervieweur de position
moi,
aujourd'hui.
Moi je fais partie de l'association AFEA.
D'accord.
Qui organise des groupes de parole au niveau local.
Toujours pour les personnes atteintes de cette maladie.
Voilà, et leur famille.
Donc comme on en parlait hein, dans les premières parties d'émission, c'est la maladie du mal partout tout le temps, pas mal de symptômes liés à cette maladie. Et donc avant de faire la pause musicale, on a parlé de toutes les gênes que cela pouvait occasionner, comment on pouvait se présenter chez le médecin, comment c'était diagnostiqué. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après ce diagnostic?
Alors, le diagnostic est de moins en moins long, je vais dire, parce que heureusement, il y a quand même de l'information au niveau médecine, de plus en plus. Donc, une fois qu'on arrive à se faire diagnostiquer, alors pour se faire diagnostiquer, on a beaucoup d'appels dans ce sens-là. Il faut essayer d'aller en médecine interne dans les hôpitaux, parce qu'en général, c'est des généralistes qui connaissent bien toutes les pathologies, donc qui sont aptes à diagnostiquer. Il y a quelques cliniques aussi qui ont un programme de fibromyalgie avec des médecins qui s'en occupent. Alors, une fois que le diagnostic est fait, qu'on a trouvé le médecin qui a fait le diagnostic, il y a une prise en charge au niveau, Justine va nous en parler, au niveau médicaments et traitements naturels surtout. Donc, elle va nous en parler.
Mais les centres antidouleurs aussi peuvent aider les fibromyalgiques.
D'accord.
Médecine interne et centre antidouleur.
D'accord. Donc, la maladie est reconnue par les médecins. Enfin, ils ont,
ah oui,
ils ont un programme.
Oui, oui.
De toute façon, c'est une maladie qui a été reconnue par l'OMS en 1992, qui a été reconnue
comme maladie rhumatismale.
Et maintenant, neurologique, depuis qu'ils ont découvert que c'était les neurotransmetteurs, grâce à un IRM fonctionnel. Bon, nous, on n'a pas accès, malheureusement, parce que le jour où on va avoir accès, sera plus facile pour une reconnaissance, dont on parlera tout à l'heure au niveau de sécurité sociale et MDPH. Voilà. Justine va nous parler des traitements.
Voilà. Bon, ben, jusqu'à ce jour, les traitements qui étaient proposés aux fibromyalgiques étaient surtout des traitements pour diminuer les informations qui arrivent au cerveau, puisque tout se passe au niveau du cerveau. C'est pour ça qu'on dit que ça se passe dans la tête, hein, mais nous ne sommes loin d'être folles.
C'est un problème entre les
neurotransmetteurs. Oui.
Soyez dit folle, parce que c'est une maladie plus féminine que masculine. On n'arrive pas à parler au masculin.
Oui,
et là, pour une fois, les hommes ne l'emportent pas.
Oui. Et alors, ce sont des antidépresseurs qui sont donnés, mais à très faible dose, afin de recapter la sérotonine et la noradrénaline notamment, car nous avons donc un dysfonctionnement des neurotransmetteurs au niveau du cerveau.
Mm-hmm.
Souvent sont prescrits aussi des antiépileptiques, mais alors à faible dose aussi, pour couper l'information qui redescend du cerveau jusqu'aux membres. Donc, pour couper cette douleur.
D'accord.
Et ces antiépileptiques sont donnés principalement le soir afin de privilégier un sommeil plus confortable, plus réparateur, et par la durée aussi. Et bien souvent, on prescrit du paracétamol qui calme quand même, c'est la base de la douleur. Alors, il n'y a pas de traitement à proprement parler, mais des traitements qui tentent de soulager. Heureusement, la piste médicamenteuse n'est plus la seule que les médecins proposent depuis, on va dire, à peu près un an. Hein. Le professeur Blotman, lors de son dernière conférence au congrès de la Société de rhumatologie en novembre 2009, a constaté qu'une bonne prise en charge en balnéothérapie, et il faut savoir qu'il faut au moins 2 à 3 séances par semaine par un kinésithérapeute bien formé à la fibromyalgie, parce qu'on ne peut pas faire tous les mouvements, et le fait de faire les mouvements dans l'eau, nous sommes en apesanteur, donc c'est beaucoup plus facile. Cette balnéothérapie soulage énormément les malades. Alors, il y a aussi la relaxation, le yoga ou la sophrologie qui sont très efficaces. Mais alors, tout ça, c'est pas remboursé par la sécurité sociale.
D'accord.
Donc, on arrive dans une maladie, disons, peut-être de riche, parce qu'on a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en charge.
Mais justement, pour venir comme ça à la relaxation, le yoga, pareil, il y a des mouvements réalisés, est-ce que...
Oui, c'est surtout par la respiration.
Donc, et tous les exercices de respiration.
Et puis, par le mental. D'accord. On essaye de travailler sur la douleur par le mental. Ça fait 2 ans que je suis suivie par une sophrologue tous les 15 jours et j'arrive très très bien à faire mes séances, même tous les jours quand je travaille sur mon PC, quand il y a trop de tension. Donc je fais mes séances de sophrologie.
D'accord. C'est Annie aussi, je crois que tu en as fait, toi.
Non, moi c'est de l'hypnose que j'ai fait.
Oui, l'hypnose
aussi.
Et je dois dire qu'après la séance d'hypnose, j'avais l'impression d'être en apesanteur. J'avais l'impression, en fait, de ne plus sentir mon corps.
D'accord.
Que mon corps était une enveloppe qui volait, en fait.
Et c'est donc bizarre. Là, quel était l'objectif de l'hypnose?
C'était diminuer mes douleurs.
Diminuer la douleur, d'accord.
Et me faire penser à autre chose qu'à la douleur. Et ça a marché, mais à la première séance, j'avais l'impression de voler. Donc, ça peut paraître bizarre, ça peut paraître fou, mais pourtant, ça marche.
Mais l'hypnose est bien utilisée pour certaines opérations du cerveau.
Non,
donc c'est quelque chose.
Il y a aussi
chose...
des thérapies qui sont faites par l'hypnose. Pas l'hypnose qu'on voit à la télé ou.
Non, pas du tout.
Tombe par terre. Non, c'est vraiment une hypnose thérapeutique.
Oui. Je voulais juste rajouter quelque chose parce que après je vais oublier. Le souci, on dit autant de fibromyalgie que de fibromyalgie. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'hypnose va marcher sur une personne, pas sur l'autre. La relaxation sur une personne et pas sur une autre. Les médicaments, c'est pareil. Donc, surtout, entre nous, on discute de la maladie, mais on ne peut pas vraiment se donner de conseils. On peut juste dire qu'il faut tout essayer et qu'il y a quelque chose qui marchera pour soulager nos douleurs. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas la balnéo, par exemple, parce qu'elles ont froid quand elles sortent. Il y a des personnes qui ont peur de l'eau, voilà. Vous voyez, donc il y a des gens qui n'aiment pas l'hypnose parce qu'ils ont l'impression de perdre le contrôle d'eux-mêmes. Mais tout ça, ça peut marcher, mais ça dépend. Il faut vraiment essayer. Voilà, il faut essayer toutes ces choses naturelles pour voir ce qui nous correspond. Et les médicaments, c'est pareil.
D'accord. Et dans ces cas-là,
moi, Pardon.
Vas-y.
J'aimerais lancer un appel parce que justement, il y a peu d'hypnotiseurs et on n'en connaît pas dans les Yvelines. Donc, si vous êtes hypnotiseur et que vous connaissez la fibromyalgie, surtout contactez RVVS, qui nous transmettra vos coordonnées.
D'accord, très bien.
C'est valable aussi pour les kinés qui font de la balnéo, parce qu'on n'en connaît pas beaucoup. Et tout ce qui est naturel, tout ce qui est même les acupuncteurs, on a affaire à des acupuncteurs. Bon, là, c'est plus facile parce qu'ils sont souvent médecins, donc on retrouve les adresses.
D'accord. Juste dans ces cas-là, est-ce que c'est le rhumatologue qui vous oriente vers ce type de thérapie
Oui, mais ça peut être repris par le généraliste après, qui est en relation avec le rhumatologue.
D'accord.
Il y a une bonne collaboration générale. Alors, pour les fibromyalgiques, dans les traitements, souvent, on propose un suivi par un psychologue ou un psychiatre. Mais le psychiatre doit faire de la TCC, de la thérapie cognitivo-comportementale, afin d'aider le malade à gérer la maladie et à vivre avec les douleurs. Et ça, c'est ce qui est conseillé par tous les médecins. Donc, depuis l'année 2009, les spécialistes de la fibromyalgie ont établi des programmes en milieu hospitalier sur une période de 5 à 6 semaines de réadaptation à l'effort. Parce que nous sommes aperçus que quand nous sommes en crise, nous nous recroquevillons sur nous-mêmes, donc il y a encore une perte musculaire plus importante.
Plus importante,
et à chaque fois qu'on veut refaire quelque chose, c'est pire qu'avant. Donc il faut, on ne peut pas faire un marathon, c'est sûr, mais dans le reconditionnement à l'effort, vous avez la marche qui est un sport où en plus vous êtes à l'air libre, nature.
Oui.
Donc il y a la facilité de se détendre, de faire des breaks et tout, des pauses. Il ne faut pas oublier les étirements à la fin parce que nous avons les muscles très contractés. Ce sont comme des tendinites chroniques. Donc ça après, il faut que les personnes qui ont fait une hospitalisation soit complète ou soit deux jours, parce que ça existe sur Paris deux jours, et les personnes vont à l'hôpital aux heures comme si elles allaient travailler. Les médecins les obligent à prendre les transports en commun et à rentrer chez elles le soir. Donc c'est un peu une réadaptation aussi pour reprendre un rythme de travail adapté après, parce que là aussi les recommandations de l'Académie de médecine, il faut des postes adaptés pour ces personnes-là. Donc le malade fibromyalgique, il faut quand même qu'il garde cette activité physique, bon à chacun de trouver son activité, mais il y a aussi beaucoup de stations thermales qui se sont penchées sur les traitements pour les fibromyalgiques. Et en début d'année, nous avons eu le plaisir de faire le salon des thermalies au carrousel du Louvre. Et là, donc, sur une période de 4 jours, ça ouvrait à 10 heures. À 10 heures, j'étais présente pendant les 4 jours sur le stand. Nous avons pu voir 1100 fibromyalgiques venir à notre stand. Et on n'était pas indiqué dans les exposants, mais par contre, on était dans la partie balnéo. Donc, pour nous trouver, il fallait vraiment chercher. D'accord. Et malgré tout, et cette quantité de malades et de proches qu'on a pu voir, on a pu la quantifier avec nos dépliants. On avait fait un certain tirage. Et donc, au bout du deuxième jour, bon, avec Nadine Randon, la présidente, on est tout le temps en communication. Et de là, je lui ai fait signe que je n'avais plus de doc. Et elle est arrivée le samedi, pour rester le dimanche aussi, avec 700 tirages dans son sac à dos, parce qu'on n'arrivait pas à fournir. C'est pour vous dire que le nombre de malades en région parisienne, c'est quand même important. Hein. Alors, en ce qui concerne les cures thermales, bon, on a fait une page cures thermales sur notre site www.fibromyalgiesos.fr. Et je tenais à signaler qu'il ne faut pas que les personnes fibromyalgiques s'arrêtent à la première année, parce qu'elle est souvent très douloureuse, parce que surtout la première semaine, on réveille toutes les douleurs. Mais après, il y a un bienfait qui se fait sentir dans les années qui suivent. Donc, il faut perdurer dans cette approche-là. Et puis, il faut prévoir une certaine régularité de ce type de traitement. Et après, on a un bénéfice des soins sur plusieurs mois, quoi. Mais on n'en guérit pas. C'est de l'entretien.
On a compris que c'était pour, voilà. Pour vivre au quotidien. Et ça,
C'est les pistes de traitement.
Et diminuer la douleur, en tout cas. Le sentiment de douleur.
Oui.
Et donc, il y a Stéphanie, tu voulais nous parler aussi des médecines douces.
Oui.
Dire quelques mots avant la troisième pause musicale.
Je fais de la mésothérapie. Alors, la mésothérapie, c'est un pistolet. On injecte
des anti-inflammatoires.
Voilà, merci. D'accord. Des anti-inflammatoires. Et là, on sent mieux. C'est sur les points fibromyalgiques qui sont visés. Et bon, certaines personnes...
Excuse-moi, je vais t'interrompre parce qu'en fait, les anti-inflammatoires, ça fibromyalgie n'agit pas. Mais toi, c'est tu as d'autres pathologies.
Oui, moi, j'ai d'autres pathologies.
Voilà, et ça agit sur d'autres pathologies. Il faut savoir quand
c'est
même que...
C'est comme la cortisone.
Voilà, ça ne marche pas, la morphine ne marche pas.
Mais moi, il ne m'injecte pas que ça, il m'injecte du Valium.
Oui, mais c'est plus le Valium qui doit te faire du bien parce que ça décontracte les muscles. Parce que les anti-inflammatoires, c'est important de dire que ça ne marche pas parce que les gens se bousillent estomac avant de savoir le diagnostic et surtout ne prenez pas ça.
Il m'injecte aussi des anesthésiques.
Oui, mais c'est ça qui te fait de l'effet. Oui, ça t'endort le muscle et c'est ça. Par contre, le côté anti-inflammatoire, c'est peut-être pour une autre pathologie, hein, ça je ne dis pas.
Bah, il fait le mélange.
Voilà.
Et le mélange fait qu'après, moi, je me sens mieux. Alors, bien sûr, j'ai très froid parce que ça me fatigue énormément, mais je ressens mieux. Et je fais de l'acupuncture aussi. Alors ça, ça fait aussi du bien. Parce qu'il
touche des zones...
ça touche des zones bien précises. Les points fibromyalgiques, toujours. Et là, on sent de la fatigue. D'ailleurs, moi, je m'endors pratiquement sur la table, tellement je me sens bien. Et il fait chauffer aussi les aiguilles, mon acupuncteur. Et c'est vrai que ça me fait énormément de bien.
D'accord.
L'homéopathie aussi fonctionne très bien. Oui.
Il faut savoir que toutes ces choses-là marchent pour soulager, mais il faut vraiment le faire tout le temps parce que dès qu'on arrête, c'est terminé.
Hein.
Ah,
oui. D'accord. D'accord.
Ça ne guérit pas. En fait, on reste toujours au même point.
Si on peut résumer, c'est vraiment des traitements singuliers suivant la personne.
Il faut vraiment qu'on essaye. Moi, par exemple, je ne supporte pas du tout l'acupuncture parce que les aiguilles, ça me... Je ne supporte pas qu'on me pique avec les aiguilles. Ça, je ne supporte pas. Mais il y en a sur qui ça marche très, très bien.
Comme vous voyez, nous sommes trois, on a trois fibromyalgies différentes.
Moi, je ne fais pas de la manéo avec mon kiné parce que je n'aime pas l'eau. je fais de la boue thermale, il y a des massages très doux avec de la boue thermale après et ça me fait énormément bien. Donc, vous voyez, on est trois différentes.
Ok, bon, on va faire une troisième pause musicale. Donc, je crois que là, c'est Thierry Amiel.
Voilà, je regarde vous. Là-haut. Pareil. Même si on ne doit pas parler de religion sur le forum, là, j'ai le droit. Donc, voilà, pour ceux qui croient à quelque chose, ils se raccrochent à ça. Donc, on peut s'y raccrocher dans notre maladie.
On écoute Thierry Amiel.
Cherche tous son étoile, une bienveillante et à part. Quelqu'un à qui on parle, qui nous éclaire le regard. Une lueur qu'on retient, est-elle la même pour tout le monde, comme un destin commun.
VVS 96.2 FM, dernière partie d'émission de Route des Hommes sur le sujet de la fibromyalgie aujourd'hui en compagnie de l'association Fibromyalgie SOS, donc Ghislaine Isabelle si je ne me trompe pas, et Stéphanie aussi,
FEA.
Qui nous présente voilà, son association oui. FEA, donc une association locale.
Oui, locale, basée à Mantes-la-Ville.
Okay.
Et des groupes de parole sont organisés à Mantes-la-Jolie, à l'Agora, à la Maison des Associations.
Pour les personnes fibromyalgiques.
Oui, donc. Et leur famille, si elles désirent y participer.
D'accord, donc aussi un soutien de l'entourage. Oui. D'accord. Donc justement, on a abordé la question dans les précédentes parties d'émission sur le fait de travailler ou pas avec cette maladie. Donc je me retourne vers vous, Ghislaine. Est-ce que
non, moi, c'est Isabelle,
non mais c'est pas, il y a toujours le début d'émission et la fin d'émission où je non, me trompe de nom, donc c'est normal.
Bon alors Ghislaine va nous parler de la reconnaissance. Moi je dirais simplement que on essaye avant d'arrêter de travailler. Bon la plupart arrêtent de travailler, hein, mais avant ça on essaye d'avoir un mi-temps thérapeutique ou un aménagement de poste. Mais malheureusement dans beaucoup, moi j'étais coiffeuse, donc l'aménagement de poste coiffeuse, c'est impossible.
Difficile.
C'est impossible. Donc il y a quand même les trois quarts des personnes qui ne travaillent plus, malheureusement.
D'accord. Et dans ces cas-là, pour les aménagements de poste, il faut se tourner vers qui?
En fait, souvent on se met en arrêt de travail et puis après on discute avec le médecin conseil et on essaye de faire un aménagement de poste quand c'est possible ou un mi-temps thérapeutique parce que bon, il y en a pour eux, c'est psychologiquement très important de continuer à travailler. Moi par exemple, j'ai arrêté la coiffure, mais j'ai pris des enfants à être au devoir. Comme ça, je n'ai pas besoin de les porter parce que je ne pourrais pas. Mais je vais les chercher à l'école, je les aide à faire leurs devoirs quand je n'oublie pas mes tables de multiplication. Et puis, voilà. Donc, mais c'est bon. Ghislaine va nous parler de la reconnaissance.
La reconnaissance
sociale. C'est très, très
ouais.
important dans la sécurité sociale et la MDPH.
La MDPH, donc la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Voilà. Oui. Alors, au niveau de la sécurité sociale, le ministère de la Santé, dans sa réponse aux parlementaires et sénateurs, parce qu'il y a souvent les parlementaires et les sénateurs qui posent des questions, on a leur soutien. La réponse est donnée pour les fibromyalgies graves, ce qu'ils appellent les fibromyalgies sévères, et nécessitant des soins loin et coûteux. Les fibromyalgiques peuvent bénéficier d'une exonération du ticket modérateur avec une prise en charge en ALD 31, donc en dehors de l'ALD 30.
Alors,
les 30 pathologies.
Qu'est-ce que c'est l'ALD 30
et alors, affection de longue durée.
D'accord.
Donc, dans les 30 pathologies, vous avez les poumons, le cœur, le diabète. Donc, nous, on ne rentre pas du tout dans ces 30 pathologies. Donc, on a l'ALD 31. Donc,
d'accord.
C'est pour ça. Alors, et cependant, ben, on a de gros problèmes parce que tous les centres de sécurité sociale ont reçu les informations de la part de leur siège, mais les centres n'appliquent pas les mêmes recommandations, d'autant que la notion de soins longs et coûteux est subjective. Malheureusement, nous déplorons toujours beaucoup de disparités entre les régions et les caisses, et ça, c'est là que c'est un problème. Quant au ministère de la Santé, il a demandé une étude sur la fibromyalgie auprès de la Haute Autorité de Santé, la HAS, qui fait une étude qui est en cours. Et cette étude touche tout le personnel médical, le corps médical qui peut s'occuper des fibromyalgiques. Alors, il y a tout de même une évolution depuis quelques années. C'est vrai, parce qu'on a eu aussi le rapport de l'Académie de médecine en janvier 2007 qui a reconnu, non pas comme maladie, mais syndrome. C'est déjà un premier pas. Hein. Mais donc, depuis décembre 2008, le Parlement européen a fait une déclaration écrite qui est la 69-2008, qui donne des directives, des recommandations pour une meilleure prise en charge de la fibromyalgie et des malades. Et cette déclaration vient d'être complétée en octobre 2009, la 69-2008 suite, et c'est déjà une bonne progression dans cette reconnaissance. Alors, en ce qui concerne les MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, là aussi, il y a autant de disparités qu'avec les centres de sécurité sociale, et il est bien difficile de faire avancer les choses, malheureusement. Certaines MDPH reconnaissent tout de suite la fibromyalgie hein, et le handicap. Mais d'autres, c'est le déni total. Et là, c'est une lutte permanente qui commence entre les malades et les structures administratives. Et ça, c'est très usant pour le fibromyalgique. C'est démoralisant et ils n'ont plus la force de se bagarrer pour ça, d'où l'aide des associations. Mmh. Alors, pourquoi autant de différences là aussi, comme avec la sécurité sociale? Le rôle des associations est de lutter pour que ces inégalités disparaissent. C'est une mission à laquelle Fibromyalgie SOS travaille quotidiennement, car bien souvent les malades se retrouvent seuls, sans aucune aide financière, car bien souvent elles ou ils ne peuvent plus travailler, comme disait Isabelle tout à l'heure, mais il y a aussi l'explosion de la cellule familiale avec des enfants à charge, donc le quotidien très difficile à gérer.
Et donc pour les personnes qui ne peuvent plus travailler, est-ce qu'il y a des subventions, de l'argent qui...
Ah ben, la personne qui est reconnue handicapée par la MDPH, elle peut toucher l'AAH, mais c'est
limite pour adultes handicapés.
Pour la sécurité sociale, en fait, il y a catégorie 1, c'est 30% la validité. Salaire. Catégorie 2, c'est 50% du salaire, avec droit de travailler. Mais faut savoir aussi que moi, j'ai une pension comme quoi je suis en incapacité du métier. Je touche les 350 euros. Au bout de 3 ans, 250 euros.
Elle diminue en fait.
Voilà. Bon, maintenant, elle est définitive, c'est 250 euros. Mais il faut savoir que si je travaille, par exemple, pour l'aide aux devoirs, je suis déclarée en chèque emploi-service, mais je ne dois pas dépasser 250 euros, sinon on m'enlève ma pension. Voilà. C'est un cercle vicieux, voilà. Je veux juste rajouter quelque chose parce que je crois que la mission termine. Je veux juste dire qu'au niveau médicaments, rien n'est validé pour la fibromyalgie en Europe, contrairement aux États-Unis, parce que l'Europe considère ces médicaments comme ayant trop d'effets secondaires et pas assez de résultats sur la fibromyalgie. Et je voudrais dire qu'au niveau examen, il existe à titre expérimental un IRM fonctionnel qui prouve que ce sont les neurotransmetteurs de la douleur qui ne fonctionnent pas. Voilà, c'est tout ce qui est officiel en tout cas.
Moi, je voulais juste poser une question. Le fait que la maladie soit reconnue depuis peu, hein, on a vu 92, est-ce que ça n'expliquerait pas aussi qu'il n'y a pas eu ce suivi par l'État, en gros, hein, par la MDPH?
Ah oui, tout à fait. Une maladie qui était très, très mal reconnue, puisque maladie considérée comme hystérique chez les femmes, donc très, très mal reconnue.
Mais elle n'est pas nouvelle, parce que Florence Nightingale, qui était une infirmière britannique née en 1820,
fondatrice de la Croix-Rouge.
Oui, de la Croix-Rouge internationale et de la première école d'infirmières, en était atteinte vers l'âge de 40 ans. Et c'est pour ça que le 12 mai, tous les ans, c'est la journée mondiale de la fibromyalgie. Et là, nous avons contacté tous les médias, les émissions de télé, le président de la République, tout ça, pour essayer de faire avancer les choses pour que cette reconnaissance soit encore plus forte. Quoi.
D'accord.
Mais ce n'est pas une maladie nouvelle.
Hein. Oui. Mais elle a été reconnue.
1820, il y a de plus en plus, heureusement, on en parle beaucoup grâce aux associations. D'ailleurs, les médecins du congrès de Dax, où nous avons été la semaine dernière, nous ont rendu hommage en disant que c'était grâce aux associations que ça avançait, parce qu'en fait, on n'en sait plus que les médecins.
Oui. Nous sommes complémentaires.
Voilà.
D'accord. Alors. AFEA.
Au 01 30 98 45 57, steph.maury@9.fr ou http://afea.idf.free.fr. Et si vous voulez nous rejoindre pour un groupe de parole à l'Agora 254 boulevard du Maréchal Juin à Mantes-la-Jolie, le prochain groupe de parole a lieu le 28 mai.
Ok, merci. Et
alors, www.fibromyalgiesos.fr. Donc sur le site, vous trouvez le forum, vous trouvez les adresses mail, il y a tous les renseignements. Le téléphone 0820 220 200 du lundi au dimanche de 10h à 23h. Et là, je crois que la pause musicale qu'on va vous annoncer, c'est notre parrain de l'association qui s'appelle Damien Dessène, qui a écrit une chanson sur la fibromyalgie. Et sur le site, vous pouvez retrouver le clip avec la chanson.
D'accord, vous faites les choses très bien. J'ai rien besoin
j'ai
de dire.
J'ai toujours rêvé d'être animatrice radio.
Et la chanson s'intitule « La cavalière ». Écrite à partir des témoignages de
fibromyalgie.
Donc les paroles sont très importantes.
Ok, ben on va écouter ça attentivement.
Merci.
Juste pour vous dire que l'émission donc sera rediffusée lundi de 13h à 14h, qu'elle sera disponible sur notre site internet rvvs.fr et que la semaine prochaine, normalement, vous retrouvez Corinne qui va parler des jeunes entrepreneur. Oui. Voilà, merci beaucoup.
Merci, et merci à vous.
Bonne fin de journée. Mmh. Et donc, je crois que l'émission, à partir de 14h, c'est VIP. Il me semble. Donc, ne quittez pas notre antenne. Au revoir.
Merci, au revoir.
D'abord des gestes frôlés, insidieux et insistants, et mon destin qui succombe à tes assauts incessants. D'allure hautaine arrogante, d'une assurance insolente, je connais si peu de toi qui mènes cette danse. Contraint de goûter tes lèvres, contraint d'y laisser ma peau, tu ne me laisses pas de trêve, mais je résiste tant qu'il faut. Oh, je rentre en résistance, comme on part à la guerre, je porte le drapeau. Je rentre en résistance. Tu as serré tes griffes, tu as enveloppé ta proie, mais de victoire il n'y a tant que je n'abandonne pas. Tu m'as imposé les pas d'une violente partie de danse. Mais sache qu'à cet instant-là, ma vie rentre en résistance. Quand je distingue une faille, je m'y faufile et m'engouffre. Je me fous des représailles, je décide de ma route. Oh, je rentre en résistance, comme on parle. Je porte le drapeau, l'étendard, la bannière. Je rentre en résistance. Dans les moments rémission, chaque fragment de plaisir qui se glisse entre mes doigts devient plus grand qu'un empire. Les moments de répit, l'insignifiant prend du sens. Je dévore avec passion le moindre écho de mes sens. C'est dans nos mains qui se joignent que se ressourcent mes forces. Et cette foutue cavalière ne me gâchera pas.